C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Il y avait un troll. Le chef des trolls. Un mauvais diable, si vous voulez. Il faisait le mal autant qu'il pouvait. Il ne souriait que lorsqu'il était méchant. Et comme il était très méchant, il souriait presque tout le temps. Ce jour-là, il était dans le ciel. Il souriait encore plus que d'habitude. Et alors ça faisait comme si son nez dégoulinait, mais de la bouche. Il souriait comme ça parce qu'il venait d'inventer un objet terrible pour faire encore plus de mal. Un miroir magique. Le troll a fait... Ce qui voulait dire, dans le reflet de mon miroir, le bien deviendra le mal, le beau deviendra le moche, et tout ce qui est mauvais grossira, grossira, grossira comme au travers d'une loupe énorme. Tout de suite, il est allé sur Terre pour essayer son miroir. Facile! Les plus beaux paysages ressemblaient à des épinards cuits. Les plus beaux visages ressemblaient à des chiffons tout rabougris. Le troll n'arrêtait pas de ricaner. Qu'est-ce qu'il s'amusait? Il a fait le tour de la Terre comme ça. À un moment donné, il a grogné. Ce qui voulait dire... Ça marche du feu de Dieu. Dieu, ça lui a donné une idée. C'est sur Dieu maintenant qu'il allait tourner son miroir. Il en riait d'avance quand il s'est envolé dans le ciel comme un oiseau sans aile. Mais à un moment donné, le troll a entendu un ricanement. C'était le miroir qui s'était mis à rire, lui aussi. Et plus le troll montait, plus le miroir ricanait, plus le miroir ricanait, plus il tremblait. Il a tremblé si fort qu'il a explosé en plein milieu du ciel. Il s'est désintégré en milliers de millions de milliards de morceaux. Le troll a regardé les morceaux s'éparpiller à travers le monde. Il a fait « Oups ». Il s'est envolé très haut dans le ciel. Il a disparu. On ne l'a plus jamais revu. Mais les morceaux de miroir, eux, se sont éparpillés partout dans le monde. Et là, ils ont fait encore plus de ravages qu'auparavant, car chacun des morceaux de miroir, et certains étaient plus petits qu'un grain de sable, chacun des morceaux avait gardé la même force, le même pouvoir que le miroir tout entier. Quand un morceau de miroir entrait dans l'œil de quelqu'un, il y restait. Et cette personne voyait tout en noir. Quand un morceau de miroir entrait dans le cœur de quelqu'un, il y restait aussi et le cœur devenait bloc de glace. Deux petits morceaux de miroir volaient encore dans l'air. Ils ont volé au gré du vent un certain temps et les deux morceaux de miroir ont traversé les nuages, ont survolé la mer du Nord, sont arrivés au Danemark, dans la ville de Copenhague. Là, ils se sont posés tout en haut d'une haute maison de briques. Ils sont restés là, à attendre. Le flocon grossit, grandit, le
le flocon se transforme en une belle femme vêtue d'un long manteau, d'un long manteau blanc. Elle est grande, elle est svelte, elle est belle, comme faite de glace, mais vivante. C'est la reine. De son tabouret, il tombe par terre. Quand il se relève, la dame a disparu.
Salut, c'est Charles Cécile. Tu connais la véritable histoire de la Reine des Neiges, tu crois? Ah, pas sûr. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de la conteuse Anne Boutin, qui elle-même nous emmène au Danemark, dans le pays de Hans Christian Andersen, et aussi de sa propre grand-mère. School.
Anne Boutin-Pied, bonjour.
Bonjour Anne-Gaëlle.
On est dans un parc, au bord d'un petit ruisseau ou une rivière qui s'appelle...
Le Cailly.
Et dans un festival qui s'appelle Parole du Cailly, qui est un festival tout beau, tout neuf, inventé par...
Par Louis-Marie Zekaron-Barth.
Ouais. Et hier, tu as fait le lancement de ce festival.
Oui, parce que c'est un festival, il a choisi le thème de la transmission et il m'a fait un cadeau merveilleux de pouvoir transmettre la chanson, une chanson que ma grand-mère danoise m'avait apprise.
C'est lui... comment cette chanson alors ?
Alors, c'est une chanson à boire.
Ouais.
C'est chouette d'avoir cette transmission par sa grand-mère. Et c'est vrai qu'au Danemark, on aime bien boire ensemble.
Ta grand-mère, elle buvait quoi alors ?
Alors, elle buvait des bières et de l'aquavit. Et au Danemark, quand on boit ensemble, alors on s'invite à boire. Voilà. Et parfois, on chante cette chanson que je peux te chanter.
Ah oui, pour qui s'appelle. Faire,
voilà. C'est Viskola Favorben, Osomdoviken, Osomdovieken, Demskolovimel. Skol. Ce qui veut dire. Nous trinquons pour ceux que nous connaissons, pour nos amis, pardon, nous trinquons pour nos amis et ceux que nous connaissons. Et ceux que nous ne connaissons pas, nous trinquons avec eux. Skål. Et ce que je trouve formidable, c'est un truc de... Voilà, tout le monde est ensemble, on invite, voilà. Mmh. Et lui-même, Louis-Marie a chanté une chanson que son grand-père lui avait apprise. Et tous les deux, ben voilà, nos grands-parents... pour qui nous avions beaucoup d'affection, sont décédés, moi, en 2017 et lui, en 2019. Et il y avait quelque chose de très beau
à penser.
D'inviter
les grands-parents.
Ça, c'est ça. D'avoir les vieux et les vieilles, comme disent les gens en Nouvelle-Calédonie, ce qui est une chose très belle à dire, les vieux et les vieilles avec nous.
Ouais. Alors, toi, tu vas raconter aujourd'hui quelque chose qui t'a été transmis aussi, non ?
Oui, par ma maman. Ma maman danoise, qui a vécu en France... à partir de 22 ans, et qui nous racontait enfant les histoires d'Andersen, pour qui elle a beaucoup d'affection. Elle trouve que c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas... On est souvent les histoires tristes d'Andersen, alors qu'il pouvait être très drôle aussi, Andersen.
C'est vrai qu'il n'est pas connu pour ça.
Non, ici, il n'est pas connu pour ça. Et puis, voilà, elle m'a raconté cette histoire, entre autres, de la Reine des Neiges. Et une fois adulte...
Je croyais que c'était Walt Disney, moi, la Reine des Neiges.
Mais oui, Anne-Gaëlle, c'est le problème, c'est mon gros problème. Quand j'ai commencé à le raconter dans les bibliothèques, exactement, il y avait des petites filles qui me disaient « Mais t'as pas chanté la chanson ?» ou qui me disaient « Mais pourquoi tu parles pas de Bonhomme de Neige ?» Et j'ai dit « Mais je ne comprends pas. » Donc je me suis un peu penchée sur ce dessin animé qui, voilà, il est ce qu'il est. Mais ce n'est pas du tout l'histoire d'Andersen, pas du tout.
Alors, la Reine des Neiges. On te l'a raconté, ta mère te l'a raconté quand tu étais petite.
Voilà, j'avais une vision, le troll me faisait terriblement peur. Les personnages qui suivaient, voilà, étaient des personnages, pour moi, plutôt aidants, mais ils n'étaient pas saillants comme ils ont été une fois que je l'ai lu adulte. Quand je l'ai relu adulte, j'ai vu vraiment la double lecture qu'on pouvait en avoir. Et bien sûr, comme enfant, j'en avais eu cette lecture d'une aventure, de cette petite fille et de ce petit garçon, qui sont très liés au début, qui sont séparés et qui se retrouvent à la fin avec plein d'aventures. Voilà. Une fois adulte, j'ai vu des caractères qui était dans un... Alors, c'est placé dans le Danemark du 19e siècle, clairement. Mais il y avait ces archétypes, enfin, ces personnages très... vraiment du conte, comme l'ogresse, la sorcière, la fée, enfin, tous ces personnages-là étaient là. Et puis, je me suis dit, ils me parlent aujourd'hui. Dans un des épisodes, il y a une femme, ça m'a fait penser à la femme dans L'arrache-cœur de Boris Vian, cette femme qui aime tellement ses enfants qu'elle construit une cage autour d'eux. Et il y a ce personnage-là. Et ça m'a fait penser aussi à ces mamans qui, des fois, disent « il m'a fait une angine, il m'a fait une otite », en fait, qui s'épanouissent parfois dans leur rôle de mère parce que leur enfant est malade. Ou la maltraitance aussi. C'était très présent. Et j'ai voulu, non pas gommer, mais le conte, c'est vivant, hein, donc faire parler ce conte aujourd'hui. Et puis avec cette double lecture, toujours.
C'est-à-dire que tu as déconnecté l'histoire du 19e siècle.
Oui.
Tu l'as déposée dans notre époque. Ça veut dire quoi, en fait ?
Alors,
qu'il a fallu que tu fasses pour ça ?
Ce que j'ai cherché à faire, c'est ne pas donner d'indication qui puisse nous faire dire « c'est aujourd'hui en 2018 ». Par
D'accord.
exemple, je ne mets pas de mot « voiture », parce que je trouve que ça nous détache, ça nous fait sortir de l'histoire. Donc j'ai essayé de faire quelque chose le plus universel possible. Et puis, par exemple, il y a un passage, je pense à un passage particulièrement, où Gerda, telle une aventurière, une fille qui n'en veut, elle court pieds nus dans la neige et elle a besoin du soutien. Elle a besoin du soutien de gens pour l'aider à vaincre la tempête de neige. Et elle aurait voulu, elle a demandé le soutien de la force de 100 hommes. Et on lui a dit non, c'est pas la force de 100 hommes qu'il te faut, c'est ta force à toi. Dans le texte d'Andersen, comme c'est assez religieux, c'est emprunt de la religion protestante forte au Danemark à ce moment-là, ce sont des anges qui sortent de sa bouche, 100 anges. Et qui la protège. Et moi, ça ne me parlait pas, cette image. Et donc, moi, j'ai fait sortir de sa bouche des nuages de brume qui, petit à petit, se transforment en petite fille, jeune fille, femme adulte, et même des vieilles femmes avec des cannes. Parce que quand on est vieux, on a beaucoup de force aussi, une autre force, qui la protège. Et pour moi, ça évoquait plutôt quelque chose en quoi je crois beaucoup, qui est nous sommes ce... toutes les petites filles, les personnes du présent, et aussi nous sommes déjà les personnes plus âgées. C'est ça qui nous constitue. Et je crois que ça, c'est plus parlant en général, à la fois pour des enfants aussi qui peuvent entendre ça, mais ça parle fort aux adultes aussi, cette image-là.
De la maisonnette sort une femme. Elle porte un bâton crochu. Elle traverse tout le jardin, arrive à la grille, prend une clé autour de son cou, ouvre la grille, rejoint Gerda. Avec son bâton crochu, elle rapproche la barque. « Viens, petite, dis-moi qui tu es, d'où tu viens ?» Au début, Gerda n'ose pas bouger, elle ne la connaît pas, cette dame. Et puis, elle la regarde de la tête aux pieds, des pieds à la tête, et elle sourit. La dame aussi est toute fleurie. Elle porte des chaussures à fleurs, un collant à fleurs, une robe à fleurs, un gilet, vous connaissez l'histoire, des bagues, un collier, un chapeau, non de paille, mais sur le chapeau de paille, quatre fleurs sont cousues. Une marguerite, une pensée, une violette et une rose rouge. Quand Gerda voit la rose rouge, elle pense à Caille. Alors, elle donne la main à la femme fleurie qui la conduit dans son jardin. Elle lui dit « Raconte-moi ton histoire. » Gerda raconte tout. Le toit, la blessure dans l'œil, le froid, la luge emportée, la rivière. Et qu'elle va jusqu'au bout du monde pour trouver Caille. Et peut-être que la dame l'a vue. Caille aime tellement les roses. Non. Pas passer par ici, mais s'il aime tant les fleurs, les roses, je suis sûre qu'il viendra. Tu resteras chez moi le temps que tu voudras. Je prendrai bien soin de toi. Oh, tu as les cheveux tout ébouriffés. Viens dans mon salon, je vais te recoiffer. La femme fleurie installe Gerda dans son salon, sort un peigne doré de son tiroir et se met à coiffer les cheveux de l'enfant tout doucement.
Un coup de peigne, deux coups de peigne, trois coups de peigne, Gerda oublie. Elle oublie la barque, elle oublie la rivière. Elle se sent tellement fatiguée. Quatre coups de peigne, cinq coups de peigne, six coups de peigne, Gerda oublie. Elle oublie le toit, elle oublie Kai. Ses yeux se ferment. Sept coups de peigne, huit coups de peigne, neuf coups de peigne, Gerda oublie. Elle oublie presque tout parce qu'elle, elle se rappelle comment elle s'appelle. Bientôt, ses yeux se ferment. La femme fleurie, tout doucement, sort pour ne pas réveiller l'enfant. Elle a pris son bâton crochu. Elle, elle va faire disparaître toutes les roses du jardin. Les roses, t'as fait trop penser à Kai. À peine son bâton crochu a-t-il touché le sol que tous les rosiers disparaissent sous terre. Quand Gerda se réveille, il n'y a plus un seul rosier dans le jardin. La femme fleurie est toujours Gerda. Elle, derrière Gerda, elle prend bien soin d'elle. Dans le jardin de la femme fleurie, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Oh Gerda, tu es tombée. Tu t'es fait mal. Non, 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 c'est rien, je me suis même pas égratignée. Mais si! Je te mets un pansement. Ça veut dire que tu es malade. Dans le jardin de la femme fleurie, il fait toujours beau, il fait toujours chaud. La femme fleurie prend bien soin de Gerda. Mais le temps qu'elle s'est agenouillée, Gerda a vu le haut de son chapeau. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez des fleurs? C'est le moment où on voit où, si vous avez été attentif. Hein. Je dis qu'une fois, je dis qu'une fois exprès. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait comme fleurs? Une marguerite, une pensée, une violette. Et une rose rouge, l'unique rose rouge que la femme fleurie a oublié de faire disparaître. Quand Gerda voit la rose rouge, tout lui revient en mémoire. Elle ne laisse rien paraître, elle court au fond du jardin, essaie d'ouvrir la grille. Elle est fermée. Immédiatement, elle se met à pleurer. À peine sa première larme a-t-elle touché le sol, qu'un rosier rouge sort de terre et grandit à vue d'œil en s'accrochant à la grille. Il passe de l'autre côté, Gerda ne réfléchit pas qu'elle pourrait se blesser les pieds. Elle grimpe aussi, passe de l'autre côté dès qu'elle le peut. Elle saute, elle se met à courir sans regarder derrière. Elle ne s'arrête que quand elle est complètement essoufflée. Elle regarde derrière, pas de femme fleurie, pas de jardin. Elle peut continuer sans danger.
Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, ce que tu as dit, j'ai voulu moderniser cette histoire. Quelquefois, quand les conteurs interviennent dans les écoles, dans les collèges, les profs disent « bon, alors on va prendre des contes et puis on va les moderniser ». Alors du coup, on se retrouve tout d'un coup avec les supermarchés et puis tout ça. Et là, ce que tu dis, c'est que pour le moderniser, ou en tout cas pour faire que ça soit tout à fait... attrapable et métabolisable aujourd'hui, tu as simplement travaillé sur ce qu'il y avait de tout à fait et à la fois universel, on pourrait dire, et à la fois éternel de cette histoire.
C'est ça, parce que pour moi, moderniser, c'est pas mettre justement des éléments récents, les supermarchés, dire la princesse rentre aux prises uniques, ça ne m'évoque rien. C'est plutôt trouver dans le conte ce qui nous parle encore aujourd'hui. Et ça, le mettre en exergue. Il y a aussi un autre moment où... alors, comment l'exprimer bien ? Ça parle de la maltraitance. Voilà. Et c'est un sujet que je trouve très, brûlant aujourd'hui parce qu'on n'en parlait pas avant. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'en parlait pas. Et il y a un épisode dans La Reine des Neiges où c'est une femme ogresse. Elle dit littéralement à Gerda, « Oh, elle est bien dodue, elle, je vais me régaler. » Je trouve cette image extraordinaire. Parce que il y a des mamans comme ça, ou des papas, qui se régalent de manger la personnalité des enfants. Et j'ai juste poussé un tout petit peu plus loin en faisant de la comparse momentanée de Gerda, qui est la fille de Brigand, en en faisant une fille, peut-être une fille un peu... Elle c'est un peu corrosif, ça gratte un peu, sa personnalité. Et puis, ce que fait cette fille, c'est l'élément que j'ai rajouté, elle coince une chaise dans la poignée de la porte. Parce qu'elle a peur qu'on rentre. Alors, je ne dis pas qu'elle a peur qu'on rentre, mais elle coince une chaise dans la poignée de la porte. Et elle tient un couteau dans sa main, ce qui n'était pas dans le texte d'Andersen. Et ces images puissantes, je pense que ça peut parler aux adultes d'une manière très explicite. Et aux enfants, ça va, c'est supportable. Voilà. Donc finalement, ce n'est pas tellement modernisé, mais c'est donner une lumière qui soit suffisamment parlante, mais pas trop quand même. Voilà.
Est-ce que tu dirais pas que c'est le travail d'un conteur ?
Ah bah si, totalement. C'est justement le travail d'un conteur.
Ah bon, alors donc un conteur ne prend pas le texte d'Andersen pour le réciter ?
Alors moi j'ai reçu beaucoup, je vais parler quand même de tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu beaucoup d'abord de Gigi Bigot parce que c'est elle qui m'a fait venir au conte. C'est en l'écoutant que je me suis dit, oh, c'est, mais vraiment, on-off, enfin plutôt off-on, c'est ça que je veux faire. Et elle m'a transmis que on ne fait pas de psychologie. Donc ça, c'était bien, parce que dans les films, par exemple, tu vois ce qu'on voit au cinéma, il y a parfois, moi, perso, hein, je trouve que ça m'empêche d'avoir mon propre imaginaire, de laisser aller toutes mes pensées, c'est qu'il y a trop de psychologique. Et puis, une deuxième personne qui m'a apporté énormément, et je sais que je vais être la énième personne à le dire, mais c'est pas grave, c'est Bruno de la Salle. L'exigence de l'écriture, faire une écriture orale, savoir pourquoi on dit les choses, pourquoi on dit cette phrase-là, tous les enchaînements, les séquences, une façon de rendre lisible, mais au sens très noble du mot, l'histoire. Voilà, ne pas se mettre en avant, mettre l'histoire au cœur de ce qu'on veut exprimer. Voilà.
Le début du voyage se passe très bien. Il fait nuit noire quand ils arrivent au cœur de la forêt. Une nuit si noire que l'or du carrosse fait comme un halo de lumière autour d'eux. Le cliquetis du carrosse a ralenti, les chevaux piaffent, le cocher retient sa respiration. Parce que dans les talus, les fourrés, des yeux clignent. Et tout à coup, sortent des talus, des fourrés, une bande de voleurs, de brigands. Ils font le tour du carrosse, arrêtent les chevaux, assomment le cocher, le jettent dans les fourrés, et de la bande de brigands sort la chef des brigands, CHE2FE. J'ai bien dit la chef. Elle mesure au moins 2 mètres, elle fait très peur. Elle fait très peur aussi parce qu'elle a 2 sourcils qui se rejoignent en un mono-sourcil. Comme feu Henri Emmanueli. Ça, je vais savoir quelle âge vous avez. Mais c'est pas seulement pour ça qu'elle fait très peur. C'est parce qu'elle est barbue. Elle fait le tour du carrosse, ouvre la porte, sort Gerda comme une plume. Mais c'est qu'elle est sapée comme une duchesse. Et rose et dodue avec ça, on va bien se régaler, enfin surtout moi. Elle peut pas finir sa phrase. Il y a une petite haute comme 3 pommes qui lui est grimpée sur l'épaule et qui lui mord l'oreille. C'est la propre fille de la chef de brigand. Elle lui ressemble pas du tout. Bah déjà, elle est toute petite. Et puis elle est pas barbue. Sa mère l'éjecte comme une bestiole. Comme ça. La petite se laisse pas faire, elle se redresse. Elle se tourne vers sa mère, les poings serrés comme ça. Elle lui dit... Ne la tuez pas, je la veux pour moi. Et sa robe, son manchon, je les veux aussi. Je veux qu'on me la donne et je veux qu'elle dorme dans mon lit, avec moi, ce sera mon amie. Pour avoir la paix, on met les deux petites dans le carrosse. Et le carrosse se met en route vers le repère des brigands. La fille de brigand prend le manchon des mains de Gerda, elle caresse la fourrure, elle dit « T'es princesse ?» Mais non, Gerda, elle n'est pas princesse, elle lui raconte toute son histoire. Elle écaille sur la terrasse du toit, la blessure dans l'œil, le cœur, le froid, la barque, la rivière, le jardin de la femme sans hiver. La princesse est... qu'elle va au bout du monde pour trouver Kai s'il le faut. Elle a fini son histoire quand on arrive dans le repère des brigands. Ils habitent un château, comme le prince et la princesse. Mais celui-là, il est tout en ruine. On emmène les petites dans la chambre de la fille de brigand. Elle habite dans la tour du château. Ça fait rêver, mais il n'y a plus de fenêtre. Dans la chambre, il y a un lit à baldaquin. Oh, dans un lit à baldaquin, normalement, il y a un ciel de lit. Il y a des rideaux, ça fait presque comme une cabane, mais là, il n'y a plus rien. Sur les montants, il y a des pigeons. Et puis, un peu partout dans la pièce, des ballots de foin, des pigeons, et... ils sont tous à moi, plus ces deux-là. Dans leur cage, mes colombes, ce sont mes canailles. Attachées, serrées, au bout de cette corde. C'est mon reine, mon fiancé, il s'appelle Bé. Viens là, mon vieux bé. Tu vois, je suis obligée de lui mettre une corde, hein. Parce que si je lui mettais pas de corde, eh ben, il partirait, puis j'ai pas de cage assez grande pour lui, hein. Eh, regarde, je t'achetoule le cou avec mon couteau, t'as vu, Gerda? Eh, viens te coucher, raconte-moi encore ton histoire. Gerda regarde le couteau dans la main de la fille de brigand. Elle dit, c'est ton doudou ou quoi? Moi, je dors toujours avec mon couteau. Si je l'ai pas, je dors pas. C'est comme ça. Maintenant, raconte encore ton histoire. Allez, Gerda, viens te coucher à côté de moi. Raconte-moi encore ton histoire. Gerda se couche à côté de la fille de brigand, lui met un bras autour du cou. La fille de brigand tient son couteau bien serré dans ses mains. Gerda raconte encore son histoire. Et petit à petit, elle voit la main se desserrer, les yeux se fermer. La fille de brigand s'est endormie. Gerda, elle, ne dort pas. Elle a bien vu que la fille de brigand avait mis une chaise sous la poignée de la porte pour la coincer. Personne ne peut rentrer, mais elle fixe la poignée comme si ses deux yeux à elle étaient des verrous supplémentaires. Gerda ne dort pas. Elle entend les cris des brigands, le rire de la femme de brigand, les coups dans le mur.
Softly. tell me, I walk without you. Your name inside me, no wind will hide me. Like a song, no regrets when it's done. That drift away, so softly they tell me, I'll walk without you.
C'est pas pour dire, entretien avec Anne Boutin à propos de Cœur battant, son adaptation du conte de la Reine des Neiges. Et c'est une autre conteuse, bien connue de mes services, Anne-Gaëlle Goduchaud, qui tient le micro cette fois-ci.
Voilà, il y a un écrivain qui a dit on écrit toujours la même histoire, même si on a fait 30 bouquins. Moi, je crois que je fais toujours le même spectacle. Et il y a un des spectacles, j'étais partie d'une phrase de Nietzsche, c'est « Deviens qui tu es ». Et puis, dans mes spectacles, c'est toujours des femmes. Hein. Et moi, j'ai deux filles. Il n'y a pas beaucoup d'héroïnes de contes. D'héroïnes sensées, intelligentes, audacieuses, aventurières. Et Gerda, l'héroïne de cette histoire, elle est vraiment la vraie héroïne de l'histoire.
Tu dirais que c'est la Reine des Neiges, c'est une histoire de femme ?
Oui, c'est une histoire de femme. Totalement, parce que l'écrasante majorité des personnages, ce sont des femmes. Et la particularité de cette histoire, c'est que souvent dans les contes merveilleux, le héros va avoir un élément qui va le faire aller vers un élément ou un objet, souvent un objet magique, qui va le faire aller vers une autre étape, puis une autre étape. Bon. Là, il n'y a pas d'élément magique. C'est l'histoire elle-même qui nourrit l'histoire. À chaque étape, elle raconte ce qui lui est arrivé, et c'est parce qu'elle raconte au personnage qui est en face d'elle, souvent une femme, ce qui lui est arrivé, que l'histoire va progresser. Et elle rencontre ce qui, pour moi, est un peu un empilement, c'est pas le bon mot, mais une addition de toutes les femmes qu'on peut être à certains moments de nos vies, des mères qu'on peut être, des mères un peu trop aimantes, un peu trop envahissantes, des mères un peu fofolles, des mères sages, des mères mystérieuses. Elle rencontre toutes ces femmes-là qui certainement, si l'histoire continuait, constitueront ce qu'elle sera plus tard.
Voilà. C'est pas indiscret de dire que tu viens juste d'avoir 50 ans.
Oui.
Le bel âge. Et tu dirais que c'est une histoire qui a mûri pendant tout ce temps-là pour la raconter telle que tu le fais aujourd'hui.
Oui. Je pense que
est-ce qu'il faut avoir été soi-même fille et jeune femme et mère,
ouais.
Et peut-être presque déjà grand-mère, en tout cas de l'envisager?
Moi, oui. Peut-être d'autres non, mais tu as tout à fait raison. Je suis persuadée qu'à 30 ans, j'aurais été incapable de l'écrire. En tout cas, pas avec les nuances que j'ai essayé d'y mettre. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a quelque chose dans cette histoire dont je ne t'ai pas parlé, qui est... J'ai lu un seul livre qui étudiait l'histoire. Il y a très peu d'études de ce conte. Je ne sais pas pourquoi. Et ce livre, c'est un livre de François Flao, qui est chercheur au CNRS, qui s'appelle L'extrême existence. Et dans ce livre, il a été fondateur dans l'écriture, pour moi, de l'histoire. Je ne comprenais pas pourquoi énormément d'adaptations de La Reine des Neiges mettaient tant en relief le personnage même de La Reine des Neiges, qui est très peu présent dans l'histoire. Évidemment, il est fascinant, ce personnage. Et puis, il est un archétype qu'on retrouve dans beaucoup d'autres histoires. Or, François Flao a mis en relief que Kyle, le jeune garçon de l'histoire, pris par la Reine des Neiges, dans son royaume, est bloqué dans cette saison. Gerda, elle, est prise par la fée des fleurs, dans l'été. Elle est bloquée dans cette saison. S'il n'y a pas de cycle, il n'y a pas de vie. Et l'immortalité à laquelle Kyle voudrait prétendre, en fait, ce n'est pas l'immortalité, c'est la mort. Et seulement parce que les éléments meurent et renaissent, et meurent et renaissent, seulement pour ça, il y a la vie. Et ça aussi, je crois qu'à 30 ans, je n'aurais pas pu l'entendre, le voir. Je ne sais même pas si je peux le comprendre aujourd'hui. Mais en tout cas, je peux l'envisager avec plus de sérénité, sûrement qu'avant 50 ans.
En les enroulant autour de ses oreilles. Elle est tellement belle. On dirait la cousine de princesse Leia et de Yoda. Elle est vraiment très belle. Elle ouvre la marche. Ah bah, chez elle, c'est normal qu'il n'ait pas vu. Sa maison est toute blanche aussi, toute petite. Et il y a une longue cheminée qui fume dans le ciel. Ils sont obligés de se baisser pour rentrer. Elle est déjà à son foyer, en train de tourner. Vous aimez le poisson ? Oh, c'est pas souvent que j'ai des invités, mais on va partager. Vous aimez le poisson ? Allez, Lorraine, secoue-toi. Et toi, Gerda, enlève tes bottes de pied, tes bottes de bras. Vous aimez le poisson ? Ouais, si vous n'aimez pas, vous n'aurez qu'à penser que c'est du poulet. Allez, installez-vous, mangez ! Et toi, Gerda, dis-moi ce que je sais déjà. Gerda lui raconte toute son histoire. Elle est allée sur la terrasse du toit, la blessure dans l'œil, le cœur et puis le froid, la luge emportée, le jardin sans hiver. Elle lui raconte la femme aux graisses et que elle va jusqu'au bout du monde pour trouver Kyle. La très vieille se tourne vers Lorraine. À toi, parle. Demande-moi ce que je sais déjà. Lorraine chuchote à son tour. Donne à Gerda la force de 100 hommes pour vaincre la magie de la Reine des Neiges. On dit que tu es fée, que tu es sorcière. On dit que tu tricotes les vents et que d'un claquement de doigts tu peux les arrêter. Donne à Gerda la force de 100 hommes. La force de Gerda, 100 hommes ne l'aurait pas. La force de Gerda, elle-même, ne la connaît pas. Toi, Lorraine, va jusqu'au buisson rouge et reviens immédiatement. Dépose Gerda et reviens. La très vieille prend Lorraine, pousse Lorraine dehors. Elle pousse Gerda dehors. Gerda n'a pas eu le temps de prendre ses bottes, son manteau, ses moufles.
Elle installe, la très vieille installe Gerda sur le renne. Elle donne un coup sur la croupe de l'animal, dit à Gerda, « C'est tout droit, après le buisson rouge, va sauver ton caï !»
Nous rejoignons Anne Galgaud-Duchaud et Anne Boutin pour cette interview dehors, près de la petite rivière du Cailly.
Tu dirais, parce qu'on parlait de, on parlait de Walt Disney, tu dirais que c'est quoi la spécificité d'un conteur par rapport de cet art-là et de cette fonction peut-être d'un conteur par rapport justement au cinéma?
Peut-être je vais dire quelque chose de paradoxal. Le conteur s'impose à ceux qui racontent. Voilà, on vient écouter, on est là, on reste. Quand il y a un film, on peut partir à tout moment. Donc finalement, on pourrait dire qu'il y a plus de liberté. Or, le conteur n'impose pas son point de vue, je trouve. Ça marche ici, il n'impose pas son point de vue. Et son point de vue a tous les sens du terme. C'est-à-dire, je veux dire une phrase très bateau, la petite fille est sortie de sa maison, elle a traversé le pont, elle a rejoint le village. Tout le monde va se faire une image. Moi, la première, je vois la petite fille, je vois le pont, je vois le pont. Pour certains, ça va être peut-être très lié à leur enfance, pour d'autres, c'est le lieu où ils habitent actuellement, et chacun va se faire son image. Bah, au cinéma, on nous impose tout, hein. Et puis, surtout, le conteur, il va donner des petites pluies très agréables qu'il y a en été, là, qui nous rafraîchissent. Alors, on a des petites gouttelettes qui perlent sur nous et qui sont des embryons d'idées vers des réflexions qu'on peut avoir sur la mort, sur la vieillesse, sur nos relations aux autres. Et pareil, qui ne sont pas imposées, qui sont suggérées et avec lesquelles on va jouer, probablement peut-être quand on pensera à une histoire, des années après on va voir autre chose. On pensera à ce spectacle qu'on a vu et on dira « Ah tiens, j'avais pas vu cette chose-là ». Ça continue à cheminer, bien longtemps après.
Tu le racontes depuis combien de temps, ce récit ?
Ah ben, je suis une jeune vieille conteuse. J'ai commencé quand j'avais 40 ans, suite à un stage avec Gigi Bigot. Voilà.
Mais cette histoire de cœur battant, la Reine des Neiges, tu l'as déjà raconté beaucoup ? Comment ?
Alors, j'ai commencé à y travailler en 2013. Pour un premier jet, qui avait déjà beaucoup de versions de textes. Puis je l'ai éprouvé, expérimenté avec le public, et j'ai remodifié beaucoup, beaucoup de choses après. Et on va dire que je le raconte régulièrement, parce que bon, moi j'ai souffert de la sortie du film de Walt Disney, hein, très fort. Les programmateurs ne voulaient pas entendre parler de la Reine des Neiges pendant une ou deux années, hein, après le début du film. Et donc j'ai pas mal raconté cette histoire à partir de 2016. Voilà, très régulièrement depuis 2016.
Tu dirais qu'elle se modifie encore ?
Oui, légèrement. Légèrement. Et surtout, dans les intentions que je mets dans les mots, je le vois. Certaines phrases sont plus mises en exergue que d'autres.
Ça vient de toi, j'imagine. Est-ce que ça vient aussi de...
Ça vient du public aussi.
Du lieu et des gens qui
Absolument.
Sont là.
Ça vient du public, des gens... Pas forcément l'interaction, mais peut-être ce qu'on me dit après aussi. Certaines personnes me disent « Ah, il y a telle chose, elle m'a plus particulièrement touchée. » Et puis, bien sûr, selon les lieux, parce que c'est du spectacle vivant qu'on fait, alors selon les lieux, je ne vais pas ressentir l'histoire pareil qu'une autre fois. Et puis, aussi, un domaine qui se construit encore très fort en moi, c'est la présence corporelle, physique du conteur devant le public. Avant, tout au début, et c'est normal, j'étais beaucoup sur le texte, j'y prêtais pas beaucoup d'attention. Maintenant, j'y prête attention. Je me dis que certains placements, certains gestes vont aider pour l'histoire. Et avant, c'était plutôt la musique. J'étais très focalisée sur la musique.
T'as d'abord un parcours de musicienne.
Oui, je viens de la musique. D'ailleurs, quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais je veux faire de la musique et de la littérature. Et je me disais jamais je pourrais trouver un métier où il y a tout ça. Et je l'ai trouvé tard, hein, à 40 ans, mais je l'ai trouvé. Et, Et c'est une jubilation pour moi d'écrire en pensant, enfin je fais pas exprès, soit c'est un texte, le texte qui pour moi voilà, va faire la musique de l'histoire, soit c'est la musique qui va faire comme une sorte de texte pour compléter le texte lui-même de l'histoire.
Est-ce que c'est toi-même qui fais la musique ou bien tu interagis avec quelqu'un?
Pour Cœur battant, c'est moi qui ai fait la musique.
Oui. Et qui la joue.
Voilà, je la joue. Je joue avec un alto, on va dire le grand frère mal aimé de l'orchestre, le grand frère du violon, qui a une voix très proche de ma tessiture. Ce qui parfois est un gros avantage, mais qui peut être un danger parce que ça peut s'annuler aussi. Donc il faut y faire attention.
Donc tu disais, tu, pendant tout un temps, tu faisais essentiellement attention à l'aspect musical du récit.
Oui.
Et puis que tu intègres de plus en plus le corps.
Le corps, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir une pleine conscience de où je me trouve et pourquoi je fais ce geste. Pour qu'il n'y ait pas de geste, moi je suis quelqu'un de très dynamique, je crois que je fais beaucoup de gestes, et dans la vie c'est pas très grave, mais sur la scène ça peut être parasite. Alors j'essaie d'y faire attention. Il pourrait y avoir, pour les gens qui, souvent quand je dis que je suis conteuse, les gens ils écarquillent les yeux, ils ne comprennent pas ce que c'est. Et il y a quelque chose d'un peu désuet dans l'esprit des gens. Et moi j'ai la sensation qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau, qui ne va pas cesser de grandir et de s'inventer. Vraiment c'est le sentiment que j'ai, et de s'inventer de mille manières. Et que ce qui compte c'est de travailler très fort aux histoires qu'on veut porter, voilà. Mais qu'il y a plein de manières de faire.
C'est vrai que pour plein de gens, ça ne fait pas beaucoup sens. Qu'est-ce que ça veut dire travailler très fort à un récit, d'autant plus quand il est écrit. Andersen, il a écrit, c'est un auteur.
Oui, c'est un auteur, ce n'est pas un collecteur, tout ouais. à fait. C'est très différent. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a une écriture et il faut accepter. Ça, c'était dur pour moi au début d'accepter ça, parce que j'aime bien quand les choses vont vite, j'aime bien être efficace, voilà. Il a fallu accepter la lenteur. Et un mot que je ne goûtais pas avant, c'est le mot « laborieux ». Et maintenant, j'assume totalement d'être une personne laborieuse. Il faut ouvrir son champ, ne pas rester, pour moi, hein, ne pas rester sur le texte lui-même d'Andersen, aller voir d'autres contes qu'il a écrits, aller voir d'autres versions, aller plonger dans sa biographie. Et puis, peut-être par hasard, hier Bruno parlait de la sérendipité, c'est un mot que je savoure aussi beaucoup.
Le fait de trouver quelque chose que tu ne cherchais pas.
Exactement.
Et de trouver quelque chose qui t'intéresse.
Voilà, par exemple pour François Flahaut, c'est le fait, ce livre qui m'a tellement aidée, c'est le fait que le titre me plaise, l'extrême existence, et ben c'est pour ça que j'ai trouvé ce que je ne cherchais pas dans ce livre. Et je crois que la lenteur, les conteurs, nous on doit vraiment défendre ça. On vit dans un monde où c'est un mauvais mot, hein, la lenteur. Et je crois que notre travail, profondément, il est lent. Et il participe de la vie aussi que nous expérimentons, tout à fait en dehors de compte. Et on va, parfois de manière pas du tout évidente, mais on va se nourrir de choses qu'on a vécues dans la vie réelle et qui vont s'insérer presque malgré nous dans l'écriture que nous allons avoir. Et c'est ces choses-là aussi qui vont parler aux gens qui nous écoutent. C'est une chose invisible. Ça, pour moi, c'est magique avec le conte. Il y a un truc... Je l'ai ressenti très fort la première fois que j'ai raconté une histoire pour des gens. Et c'était des adultes. Et c'était donc à ce stage de Gigi Bigot que j'ai fait. Et il y avait quelque chose d'inexplicable, d'indicible, de magique. Parce que je parlais, mes mots ne pouvaient pas se voir. Les gens écoutaient. Et je pouvais sentir que quelque chose se passait entre nous qui n'était pas visible. Ça, c'est absolument merveilleux, ça. Quand on a goûté à ça une fois, on veut regoûter.
Tu parles de lenteur. Est-ce que tu étendrais ça aussi au fait de répéter? en tout cas dans la production musicale, dans la production théâtrale, cinématographique, il y a quand même quelque chose à faire du nouveau, du neuf.
Oui, 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 tout à fait.
Et il me semble que il y a quelque chose de particulier dans le travail des conteurs par rapport à ça.
Oui, oui, on n'a pas l'injonction. Alors, normalement, on n'a pas l'injonction de produire régulièrement. Et moi, je peux pas produire beaucoup parce que tant que je suis dans une création, enfin un texte qui m'intéresse ou un sujet. Il y a Georges Perec qui disait épuisement d'un lieu, tentative d'épuisement d'un lieu, qui restait dans un café, jour après jour après jour, toujours la même heure, et qui essayait d'observer tout ce qu'il pouvait observer dans ce café. Et je ressens un peu les choses comme ça. Il faut être entré extrêmement profondément dans un sujet, dans un texte, et l'avoir pris le temps d'une digestion très lente, comme les serpents. Comme le chapeau éléphant du petit prince, voilà. Et ben, il va mettre du temps à le digérer, cet éléphant. Et c'est inhérent. Pour moi, c'est inhérent au travail du conteur. Et ça n'empêche pas de travailler beaucoup, mais de prendre le temps de digérer les choses. Hein.
Je ne sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, j'adore. Il y a des histoires, j'ai envie de les entendre tous les ans, quoi.
Ah, moi aussi, il y a plusieurs spectacles comme ça de conteurs, certains je les ai vus 10 fois, hein. et la 10e fois je vois encore autre chose, et c'est comme un rendez-vous. Et puis la personne qui est en face, elle vieillit, moi aussi j'ai vieilli, et voilà, c'est plus tout à fait la même histoire, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est un vrai bonheur d'avoir des rendez-vous réguliers avec des spectacles qu'on aime entendre année après année après année.
Gerda. Le garçon tourne la tête. Il la regarde sans la voir. Alors, elle s'approche. Elle lui secoue les épaules, le cou, les cheveux, les joues. C'est moi, Kai, c'est moi. Je suis venue te sauver. Des milliers de flocons de neige s'envolent des épaules, du cou, des cheveux du garçon. Et au lieu de se perdre dans l'air, ils forment comme un rideau de neige à côté d'eux. Sur le rideau, des images apparaissent, comme dans un vieux film. Une deuxième image. La reine des neiges sur son trône, qui ordonne à Kai d'assembler des morceaux de glace. Il doit les assembler et former le mot éternité. Seulement après, il sera libéré. Une autre image. On y voit Kai transporter les morceaux de glace, le dos courbé, les mains bleues, les lèvres qui tremblent. Et la reine des neiges dire non, non, et encore non. Encore une image. On voit le traîneau de la reine des neiges partir au-dessus de la forêt, le trône vide. Et une dernière, plus nette que les autres. On y voit Kai recroquevillé et Gerda au-dessus de lui. Deux larmes coulent sur les joues de la jeune fille. Alors, Kai tourne les yeux et il regarde la vraie Gerda. Elle pleure. Lourdement, deux grosses larmes tombe sur la poitrine du garçon. Il pousse un hurlement de douleur qui remplit la cathédrale de neige. Un petit morceau de miroir s'est échappé et reste suspendu dans l'air. Gerda se penche à l'oreille du garçon. À Copenhague, il y a un toit. Sur le toit, il y a un rosé blanc, un rouge pour deux enfants devenus grands. Alors Kai éclate en sanglots. Il pleure si fort que le deuxième morceau de miroir s'échappe. Il a explosé si fort que les morceaux de glace forment un mot, le mot éternité. Kai respire un gros souffle. Il se lève. Qu'est-ce qu'il est grand? Gerda se lève. Qu'est-ce qu'elle est grande? On ne sait pas lequel des deux a embrassé l'autre. Un baiser d'amour.
Eh bien, merci beaucoup de cette conversation.
Merci Engel.
Au bord de l'eau.
Merci beaucoup.
À une heure où il n'y a pas de moustiques, c'est parfait.
Oui, conditions.
Et puis, à tout à l'heure pour écouter ton histoire.
À tout à l'heure, avec plaisir.
C'est pas pour dire, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Anne Boutin et à Engel Goduchot. Merci aussi au Festival du Cailly pour nous avoir invités. À côté de la musique de Anne Boutin, vous avez entendu Yon Sunna et Renaud Garcia-Fons. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la retrouver, ainsi que ses nombreuses et magnifiques petites sœurs, sur le site c'estpaspourdire.fr. D'ici la prochaine fois, je vous embrasse. Ciao.